Chapitre 72. L'immense silhouette de chat qui trône en saillie sur la façade au centre d'un soleil rayonnant ne laisse aucun doute. Les félins qui ornent la grande lanterne comme des gargouilles ne font que le confirmer. Vincent a bien dû passer 20 fois devant la bâtisse de 2 étages couverte de lierre, multipliant les allers-retours sur le trottoir d'en face. Pour ne pas se faire remarquer, il se contente chaque fois de brefs coups d'œil, ne s'arrêtant jamais devant l'établissement. La réputation du cabaret Le Chat Noir est connue même de ceux qui ne le fréquentent pas. Son théâtre d'ombre attire les foules, mais plus encore ses chansonniers, qui dénoncent les scandales de la République en brocardant les figures politiques. L'originalité et l'impertinence du lieu lui assurent un écho aussi épouvantable pour les puissants que réjouissant pour les quidam. Les ministres et proches du pouvoir qui ont essayé de museler ces voix sarcastiques en ont été pour leurs frais, en leur offrant au passage une retentissante publicité. Le déménagement, voilà 4 ans, du boulevard de Rochechouart vers la rue Victor Massé n'a pas diminué son succès, bien au contraire. Le fait qu'Aristide Bruant soit resté à l'adresse première, avec les artistes et les mauvais garçons qui avaient d'abord popularisé l'enseigne, n'a pas affaibli le succès du nom. Lorsque l'incendiaire capturé a cité ce haut lieu de la vie parisienne comme le quartier général de celui qu'il nomme le Mage, Vincent l'a d'abord soupçonné de raconter n'importe quoi pour s'en sortir. Mais le fait est qu'à force de traîner devant, certains points lui paraissent suspects, à commencer par l'allure de certains clients. Si de joyeuses bandes et de charmants couples s'y pressent, d'autres visiteurs ont des mines nettement moins sympathiques. Les bougres n'ont pas une tête à venir écouter les chansonniers, et encore moins voir le théâtre d'ombre. Vincent n'y tient plus. Il ne pourra pas en apprendre davantage en restant dehors, et il doit en avoir le cœur net. Il ajuste son chapeau et traverse la rue d'un pas volontaire. D'autres clients se présentent déjà sous le porche surmonté d'un petit toit pointu. Alors qu'il n'est qu'à quelques enjambées d'eux, un cocher venu en sens inverse fait mine de le bousculer et lui souffle « N'y allez pas. S'ils vous identifient, ils vous tueront. C'est à nous d'enquêter. » Cavel réplique à voix basse « La dernière fois que j'ai laissé un autre que moi s'aventurer en nos troubles, il en est mort. » En pénétrant dans le cabaret, il lui faut quelques instants pour s'habituer à la relative pénombre. On y parle fort. Les tables sont pleines de femmes et d'hommes dont certains subissent à l'évidence l'effet d'un excès de boisson. Poètes, écrivains, journalistes, comédiens et musiciens, personnalités en vue et fortunes plus discrètes, se retrouvent côte à côte avec des gens du commun. Les couples légitimes côtoient les amants et les demi-mondaines en galante compagnie, ces femmes aux mœurs si légères qu'on les surnomme « les horizontales ». Cavel passe la joyeuse assemblée en revue, prêt à détecter le moindre visage ou détail qui pourrait lui ouvrir une piste. La décoration est complètement exubérante, chargée d'une foule d'objets fantastiques d'inspiration médiévale ou ésotérique. Encadrant des œuvres de Caran d'Ache ou d'Adolphe Villette, on voit pendre des cordes, des chaînes, des instruments de torture, des ceintures de chasteté et autres curiosités à connotation plus ou moins sulfureuse. Un serveur, courte veste noire et serviette blanche empesée sur l'avant-bras, se porte au-devant de Cavel. « Si vous n'êtes pas attendu à une table déjà réservée, c'est complet, à moins que vous ne soyez là pour le théâtre d'ombre ou les chansonniers. C'est ça, je suis venu pour eux. » L'homme lui indique l'escalier vers les étages et repart servir sa fausse absinthe au pichet. En montant les marches, Vincent réfléchit vite. Chaque pas supplémentaire l'implique davantage. Si la situation devait dégénérer, tout le chemin parcouru pour s'engager plus avant dans ce lieu devra être refait en sens inverse pour s'échapper. Il en est pleinement conscient. Alors que l'escalier lui offre une vue plongeante sur la salle du rez-de-chaussée, il ne reconnaît aucun des individus louches qu'il a vu franchir le seuil. Il note que parmi la multitude d'objets accumulés, des talismans, porte-bonheur et autres amulettes sont régulièrement exposés. L'influence de l'occulte et de la symbolique mystique dans la décoration est évidente pour quiconque capable de lire au-delà des premières apparences. Le chat noir de la façade a beau donner son nom à l'endroit, le fait qu'il s'affiche devant un soleil en gloire dont les rayons éclatants ont tout d'une aube pourrait aisément receler un sens caché. L'adresse n'est pas loin de célébrer ouvertement une aube sacrée. Parvenu au palier du premier étage, Vincent entend les rires échappés de la salle dont un rideau précédé d'un guichet marque l'entrée. Une voix nasillarde se moque des dépenses engagées pour l'exposition universelle alors que les dispensaires des estropiés de la guerre de 1870 tombent en ruine. Le guichetier anticipe déjà le paiement de sa pièce pour le laisser passer, mais Cavell garde ostensiblement les mains dans ses poches. À voix basse, il prétexte « J'ai rendez-vous avec un ami, mais je ne sais pas s'il est là ou au-dessus. » Tout à coup méfiant, l'homme l'autorise de mauvaise grâce à jeter un œil. La salle est loin d'être pleine, et là non plus Vincent ne repère aucun de ceux qui ont attiré son attention. Au moment de s'engager sur les marches menant au dernier étage, il est pris d'un doute. Ne devrait-il pas plutôt redescendre au lieu de persister? Est-il raisonnable de s'aventurer seul aussi loin, dans ce lieu où les choses sonnent assez étrangement pour laisser deviner qu'elles ne sont pas ce qu'elles paraissent? Le guichetier le regarde en biais. Vincent prend sa décision et s'élance vers l'étage qui abrite le théâtre d'ombre. Cette fois, il en est certain. Ce sera tout ou rien. N'ayant rien repéré d'anormal au premier niveau, soit il va trouver quelque chose maintenant, soit il sera forcé de conclure qu'il s'est fait des idées. Parvenu au palier supérieur, il paie son entrée et se glisse dans la salle obscure où seul irradie la clarté de la toile tendue derrière laquelle évoluent les silhouettes de zinc animées. Une voix caverneuse roulant les airs interprète les dialogues pendant qu'un pianiste renforce dans la pénombre les effets dramatiques. Le public semble captivé par cette histoire de jeune sans le sou qui passe un accord avec le diable. Afin d'avoir la meilleure vue d'ensemble, Vincent se faufile jusqu'au dernier rang. Sur la toile, présumant déjà du bénéfice que chacun compte tirer de cette alliance à haut risque, le pantin articulé et le démon à cornes dansent au pied d'un puits qui crache des boules rougies comme le ferait un volcan. Mais, la voix le précise, le jeune homme a tort de croire qu'il sera le plus avantagé, car au final, le diable ne laisse gagner personne. Le sujet est surprenant, à mi-chemin entre la fable biblique et le mythe de Faust. Les spectateurs qui assistent à la représentation sont attentifs. Aucun couple, aucune joyeuse bande. Serre-moi fidèlement et tu seras le plus admiré de tous les hommes, déclare le diable en étendant ses bras en signe de toute puissance. L'insouciant lui jure allégeance et Satan s'éloigne, non sans faire scintiller une dernière fois ses yeux fourbes. Le freluquet, confiant dans sa bonne fortune, part profiter de ses nouveaux pouvoirs, traversant une forêt, puis escaladant une colline, avant de se présenter au pied d'un majestueux palais dont les fenêtres s'illuminent à tour de rôle. Il compte y séduire la princesse. Les décors glissent avec fluidité derrière la toile, donnant l'illusion d'un véritable mouvement dans l'action pendant que les pantins sont mis en valeur par d'habiles jeux de lumière colorée. L'effet est des plus réussis. Pour un peu, Vincent en oublierait pourquoi il est ici. Le jeune suppôt du démon pénètre à l'intérieur de l'édifice par la grande porte, acclamé en héros. L'ensemble du décor s'assombrit alors, et seul le rire démoniaque résonne. Les yeux du diable se rallument dans une fantasmagorie de couleurs éclatantes. Sa voix tonne. Qui parmi vous veut lui aussi voir ses rêves devenir réalité? Qu'êtes-vous prêt à faire pour cela? Qui aura l'audace de me rejoindre? Toi, là-bas, dans le fond? Vincent s'étonne. On pourrait croire que c'est à lui que le diable vient de s'adresser. L'effet de mise en scène est en tout cas très efficace. Amusé, mais légèrement mal à l'aise, il jette un œil à ceux qui sont installés comme lui au dernier rang. Il ne s'y trouve qu'une seule personne, un homme. Tout à coup, Vincent se fige. L'inconnu, assis à seulement un siège de lui, joue avec une petite lanière de cuir. Vincent a beau s'élancer de toute sa vigueur vers la sortie, il sait déjà qu'il ne l'atteindra jamais.